Vous êtes à l'écoute de Conversations RH. Dans cette collection de podcasts, vous allez découvrir des éclairages d'experts passionnants qui vous apportent, chers auditeurs, des réponses concrètes aux problématiques liées aux ressources humaines et à la vie de l'entreprise. Alors n'hésitez pas à découvrir les épisodes des différentes saisons de Conversations RH dans lesquelles nous traitons les ressources humaines sous des angles sociétaux, psycho et techno. Comment faire face au brownout de vos équipes? Les recrutements dans le métaverse sont-ils possibles? Quels sont les bons tips pour les candidats et les recruteurs? Ou encore comment améliorer l'attractivité marque employeur? Toutes ces réponses sont dans Conversations RH. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conversations RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Et tout d'abord, merci à tous de vos messages, de vos commentaires. Vous nous écoutez, vous nous le dites et ça nous touche beaucoup dans notre mission de partage de ces visions des experts sur l'évolution des pratiques RH, ces experts qui se partagent ce micro. Allez, vous le savez maintenant, Conversations RH, c'est un podcast qui vous est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, management de transition et évaluation pour cadres et dirigeants. Et on va toucher aujourd'hui à un sujet majeur, celui de la place des femmes dans l'entreprise. Et pour en parler, c'est notamment avec une vice-championne olympique qui connaît très bien les milieux de l'entreprise que nous allons échanger. Quelques chiffres juste avant, mais pas trop. Promis, les femmes sont plus diplômées que les garçons, mais n'occupent que 23% des postes de direction selon une étude de 2019 du ministère du Travail. Et selon une étude de KPMG menée en 2015, il faudrait près de 350 ans pour atteindre la parité dans les postes de direction si rien n'était fait. Alors découvrons l'histoire d'Astrid Guyard, notre championne d'escrime française qui a croisé le chemin de LHH Recruitment Solutions dans le cadre de sa reconversion professionnelle et qui est aujourd'hui une femme dirigeante. Vous allez découvrir son histoire dans quelques instants. Et dans ce podcast, nous allons nous poser plusieurs questions, parmi lesquelles quel est le rôle des entreprises pour promouvoir les femmes à des postes de direction? Comment passer d'un enjeu d'égalité à un enjeu de performance? Ma réponse dans cet épisode, au cours duquel j'ai le plaisir de recevoir Marie Doshi. Bonjour Marie.
Bonjour David.
Marie, tu es depuis 7 ans chez LHH Recruitment Solutions. Ton poste, c'est senior manager sur la division achat et supply chain et immobilier et construction. Mais c'est pas forcément pour ça qu'on t'interroge aujourd'hui, Marie, puisque tu es ambassadrice du réseau ADEL. C'est bien ça?
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit mot?
Oui, très simplement, c'est un réseau qui vise à promouvoir l'égalité des femmes à des postes de direction.
Allez, on va en parler largement dans cet épisode. Mais autour de ce micro, nous avons également le plaisir d'avoir Grégoire Conquet. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Alors, on a l'habitude d'animer des émissions de podcast ensemble maintenant.
Presque.
Bah effectivement, nous avions fait un épisode sur le management de transition que je vous recommande. Mais là, c'est pour une autre histoire que tu viens sur ce plateau parce que tu vas nous raconter, Grégoire, ton histoire avec Astrid, qui est notre invitée d'aujourd'hui.
Absolument. C'est une histoire qui correspond à des convictions fortes et on est très content de recevoir Astrid. C'est une histoire au long cours.
Je rappelle que tu es managing director de l'activité management de transition en France chez LHH Recruitment Solutions. Et donc, notre invitée du jour, c'est Astrid Guyard. Bonjour Astrid.
Bonjour David.
Alors, je vais te présenter dans quelques instants, Astrid. Et l'histoire, la liste est longue pour expliquer ton parcours, ce que tu as fait. On va tout décrypter, on va tout comprendre dans quelques instants. Conversation RH, la place des femmes dans l'entreprise. C'est parti. Allez, c'est parti pour cette émission, ce podcast qui va être passionnant sur ce rôle des femmes dans l'entreprise. Et on a envie de découvrir ton histoire, Astrid, parce qu'elle est très inspirante. Vous allez la découvrir. Je vais te présenter, voilà, comme on peut, parce que effectivement, tu as plusieurs vies dans une vie et encore tu es jeune. Donc, j'ai compté à peu près 34 médailles en professionnel, Astrid. Vice-championne du monde, vice-championne olympique. Ta première médaille, c'était en 2005, c'était en junior. Et puis, tu as participé à toutes les, voilà, les grandes compétitions depuis. Médaille d'argent par équipe au JO de Tokyo.
Absolument. Ouais. Première médaille, alors on compte pas les médailles juniors, hein, on compte que les médailles seniors. Et donc, 2005, c'était en senior. C'est pour ça que celle-ci, elle compte.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est la première médaille de ma carrière qui aura été plutôt longue, plus de 20 ans à haut niveau. Et c'est rigolo parce que cette première médaille, je me souviens, quand on l'a obtenue, on nous a dit « c'est incroyable, ça fait plus de 40 ans que le Fleuret Dames n'avait pas été médaillé mondial ». Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est la première. Et ma dernière, c'est donc celle aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Et rebelote, on nous dit, bah voilà, ça fait plus de 37 ans que le Fleuret Dames n'avait pas été médaillé olympique. Donc c'est assez drôle parce qu'elles se ressemblent, ces deux médailles, ouais. Et elles montrent aussi un chemin parcouru par mon arme, par ma discipline. Et je suis très fière d'avoir pu changer un peu le cours de l'histoire et redonner ces lettres de noblesse à cette très belle arme qu'est le Fleuret Dames.
Alors toi, quand tu as une idée en tête, tu y vas, tu fonces, même si c'est une pratique qui a été un peu oubliée, on va dire ça comme ça, dans l'escrime français, en tout cas qui a été peu médaillée. Toi, tu fonces et tu gagnes.
Non, alors c'est vrai qu'il y a l'idée en tête, mais il y a aussi l'envie qu'on a dans le ventre.
Ouais.
Et ça, ça compte beaucoup. Et c'est justement ce qu'on a travaillé avec Grégoire. On s'est rencontrés, j'étais après les Jeux Olympiques de Rio. Il faut savoir que les Jeux Olympiques, pour un athlète, l'après, c'est toujours un peu une crise existentielle.
Ah oui.
On se pose plein de questions parce qu'on a dédié sa vie personnelle, professionnelle. Toutes nos nuits et nos pensées étaient dirigées vers cet objectif. Et une fois que l'objectif est passé, qu'il soit atteint ou non d'ailleurs, forcément, ça pose beaucoup de questions. Et ce qui compte, en fait, c'est la motivation. C'est pour ça qu'on a cette impression que je fonce. Alors déjà, je ne fonce pas seule, je m'entoure toujours des meilleurs pour pouvoir avancer, évidemment, pour être complétée. Mais ce qui compte et le plus important à aller chercher, c'est pourquoi on fait les choses, le cœur, la motivation, ce qu'on a dans le ventre. Et c'est ça qu'on a justement été travailler.
Alors, on va raconter votre histoire à tous les deux, mais on ne peut pas te raconter qu'à travers ton expérience sportive, même si elle est très très riche, parce que tu n'as pas fait que ça. Tu es aussi ingénieur aérospatial chez Ariane Group.
Oui, absolument, depuis de longues années. Et c'est la particularité d'un sport comme le mien, c'est qu'évidemment, on obtient des médailles à très haut niveau et en même temps, on a un statut qui est amateur ou semi-professionnel, donc on doit travailler à côté.
C'est ça.
Et c'est ça qui fait aussi la richesse d'une vie, d'être multi-activité, multipotentiel.
Ça m'a toujours impressionné de voir les JO, ils me disent, mais ils ont tous un boulot à côté, là, ils sont boulangers, ingénieurs, ouais, ils ont tous un boulot à côté, ouais.
Ça dépend des sports, du moins, mais en tout cas, mon sport n'est pas professionnel, ça veut pas dire qu'on s'entraîne pas comme des professionnels
ah oui,
et qu'on n'y dédie pas nos journées, mais par contre, on n'en a pas le statut.
Tu es également autrice pour enfants?
Absolument, mes livres jeunesse, ouais, qui permettent quelque part de se reconnecter à nouveau au sens, hein, cette quête de sens. J'avais besoin à un moment donné dans ma carrière de transmettre aussi ce que j'avais compris du sport de haut niveau, de le transmettre aux plus jeunes et de me reconnecter aux valeurs du sport de haut niveau, à pourquoi on fait tout ça.
Alors, on va parler de ta reconversion depuis. Tu es une femme dirigeante maintenant au comité olympique.
Exactement, un mandat d'élu auquel je tiens particulièrement puisque j'ai été élue par mes pairs, les athlètes de haut niveau, pour les représenter dans cette instance qu'est le comité olympique français. Et j'ai eu l'honneur d'y être aussi élue pour faire partie du bureau exécutif.
C'est quoi tes conseils? Parce que tu as moult activités entre autrice, ingénieure, championne d'escrime. Comment tu fais pour tout gérer, en fait? Comment tu faisais? Ou comment tu fais encore? Parce que je sais que tu as encore beaucoup d'activités.
Il y a deux éléments pour moi. Le premier, c'est de ne pas tout faire en même temps, évidemment. Mes journées font 24 heures comme tout le monde, donc c'est une question de priorité. C'est aussi passer son temps et mettre son énergie là où on a la plus forte valeur ajoutée. Ah. Donc, pas faire du présentéisme à tout prix. Et puis après, il y a une arme qui est assez géniale que j'ai appris.
Fleuret.
Non, et non. Mais c'est une arme, elle est toute simple. C'est trois lettres, c'est non. Savoir dire quand ce n'est pas possible, justement en posant les bonnes priorités pour ne pas s'éparpiller et être au bon endroit.
Bah, on commence déjà ce podcast avec des conseils très concrets, très précis. En tout cas, un beau jour. Voilà, tu étais un peu dans un spleen, peut-être ce jour-là, mais les JO se terminent, tu as une petite déprime. Faut rebondir et tu dis peut-être qu'il faut, je pense, à me reconvertir. Et tu croises la route de Grégoire. C'est comme ça que ça s'est passé, à peu près.
Bon,
je raconte un peu en storytelling, mais bon.
Non, c'est tout à fait ça. Alors, c'était se reconvertir ou plutôt se réorienter, parce que j'avais déjà mon activité professionnelle à Ariane Group, mais c'est aussi de se dire comment je vais me redéfinir. Si là, après les Jeux de Rio, je dis que je termine ma carrière, alors comment je me réinvente? Parce que, quelque part, une aventure olympique, il faut se le dire, c'est pas neutre. Et vous pouvez pas prétendre, 4 ans avant, que vous serez la même, 4 ans après l'Olympiade. Vous allez forcément changer, parce que c'est une aventure humaine qui est extrêmement riche et complexe, donc ça vous modifie de l'intérieur.
Ouais.
Et à ce moment-là, je sentais que potentiellement, j'aurais besoin de me redéfinir à la fois dans ma vie sportive, si jamais je mettais un cran d'arrêt, mais également professionnellement, et c'est ça qu'on a été travailler.
Mais alors Grégoire, comment tu te retrouves? Raconte-nous, parce que ça devait être assez impressionnant de coacher une championne, tout simplement.
Alors je le confirme.
Je suis encore tout émoustillé.
Je me suis largement porté volontaire à l'époque. Il y a un mécénat de compétences qui est porté par la fondation du groupe Adecco, sur le thème « Aider des champions à gérer la fin de leur carrière de champion et la transition vers le monde professionnel ». Ce qui n'est pas forcément un moment facile.
Non.
Moi, l'idée m'a plu. Astrid, en plus, a eu la gentillesse de m'accueillir à l'INSEP, qui est un endroit qui me parle. Je suis pas insensible au monde du sport. Donc, on s'est trouvé dans un schéma d'interactivité où, je peux le dire, je me suis autant nourri que j'ai essayé de la nourrir largement. Et surtout, je me suis retrouvé face, et Astrid l'a très bien dit, à un scénario qui était beaucoup plus riche et plus complexe que l'idée de départ. On n'était pas juste du passage de la lumière du sportif au fait de passer dans l'anonymat du monde professionnel lambda, mais je me suis retrouvé face à quelqu'un qui était riche de multiples occupations, projets, avec une notion de performance permanente. Donc, je me suis surtout mis dans une posture d'écoute très curieuse, pour tout dire.
Avec un vrai partage, parce que je crois savoir que Astrid, avec sa finesse, a compris que tu adorais être dans ce lieu-là et a préféré faire la première réunion au centre, au cœur de l'entraînement, vraiment dans le stade couvert, plutôt que de le faire dans un bureau fermé. T'avais compris que voilà, qu'il adorait ça, Grégoire.
Ouais, coup, c'est un échange. Et après, d'un point de vue pratico-pratique, moi, ça m'arrangeait aussi d'être sur mon lieu d'entraînement. Hein, quand on a plusieurs cordes à son arc, l'optimisation, c'est aussi la clé.
Ouais. Ça s'est bien trouvé.
Ça s'est bien trouvé. Et toi, avec ton petit costume, au milieu des sportifs, ça devait être parfait.
Oui, je détonnais complètement.
Mais c'est aussi de la performance, hein, quelque part, de faire ce que tu fais, de coacher des, voilà, des talents. Astrid, lorsque tu te poses cette question-là, est-ce que c'est quand même des questions que tu te posais depuis des années? Parce qu'on l'anticipe quand même énormément, une reconversion sportive. Ou est-ce que c'est vraiment, suite au JO, où tu dis, voilà, faut que je bouge, faut que je fasse quelque chose?
Alors, c'est assez marrant parce que, oui, le fait d'avoir de toute façon un double projet depuis le départ faisait que j'avais bien évidemment anticipé le fait de s'insérer dans le monde professionnel. Je l'avais déjà commencé puisque j'avais un métier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber quand on commence ce type de processus parce que ça vous questionne de l'intérieur. Et ce qui est marrant, c'est que quand même, le point d'entrée et l'hypothèse forte que j'avais posée au début de la démarche, c'est de dire « je veux arrêter ma carrière sportive ». Et ce qui est génial, et c'est le principe de la sérendipité, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi, à quoi ça va aboutir. La conclusion, c'est finalement, en fait, j'y retourne.
Ouais.
Donc, c'est absolument merveilleux.
Ouais, t'es dans la team « je me pose beaucoup de questions et je tourne autour et après, je fonce » ou est-ce que t'es dans la team « j'avance et je verrai après si mes choix étaient bons » ?
Je suis dans la team, les deux sont complémentaires, mon capitaine.
Très bien. Ah, j'adore quand tu m'appelles capitaine. Alors là, je suis content.
Ouais, je suis plutôt une intellectuelle au départ. Hein. C'est ma formation d'ingénieur, la logique. On est dans un monde cartésien. Donc, c'est vrai que... Et ça a été mon défaut parfois en escrime, de me poser beaucoup de questions. Et du coup, l'escrime m'a appris aussi à faire confiance à mon intuition. Et du coup, aujourd'hui, j'allie les deux. C'est-à-dire que je pars du principe que c'est sain de se poser des questions, d'avoir face à soi, on va dire, différentes opportunités et de les regarder telles qu'elles sont. Et en même temps, à un moment donné, il faut passer à l'action. Parce qu'en passant à l'action, vous allez ressentir des choses et vous allez trouver d'autres réponses que vous n'estimiez peut-être pas d'un point de vue purement rhétorique et logique. Et donc, en fait, je pose des actes. Une fois que l'acte est posé, je fais un feedback et je me dis « Ok, qu'est-ce que tu as ressenti? Ça te va? Ça te va pas ?» Et du coup, j'affine.
On élargit aussi à la place des femmes dans ce podcast et le fait de se poser beaucoup de questions, on en parlait avant d'enregistrer avec Marie, ça peut être quand même une source de contre-performance de poser trop de questions, non ? Comment tu vis ça, toi ?
Oui, c'est vrai, si on n'agit pas et si on reste sur place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que vraiment, en plus, la confiance en soi, pour moi, c'est des actes. Moi, j'ai déjà eu des coachs qui me disaient « mais il faut que tu aies confiance ». Ça ne veut rien dire, cette phrase, il faut que j'aie confiance. Et je commence par quoi, en fait ? Et donc, pour moi, c'est des actes et parce qu'on va se voir capable, s'observer, se regarder de haut en disant « t'as vu ce que tu as réussi à faire ? » Et là, ça va alimenter votre confiance en soi, ça va vous donner confiance dans votre capacité, de toute façon, à trouver des solutions, même si ce n'est pas passé comme prévu.
Je vois Marie qui opine du chef. J'ai l'impression que ça fait écho à des sujets que vous adressez dans le réseau Adèle et des sujets de femmes en entreprise qu'on est en train de se dire sur l'histoire d'une sportive de haut niveau.
Mais tout à fait, David. Entre finalement l'état d'esprit d'une sportive de haut niveau et la place des femmes dans les organisations, c'est très, très proche finalement. C'est des convictions fortes.
Ouais.
Et ne pas se poser trop de questions, y aller, être, agir et être dans le mouvement.
Je pense qu'on peut réécouter ce qu'a dit Astrid et se mettre en tête qu'on parle de femmes en entreprise et c'est le même discours. J'étais en train de me faire l'exercice pendant que tu parlais, Astrid, c'est incroyable.
Ouais, c'est vraiment avoir la conviction qu'on peut tout être.
Tout à fait.
Grégoire, quelle a été ta méthode pour coacher Astrid ?
Je me suis retrouvé face à un sujet riche de projets, donc divers et variés. Donc je me suis raccroché à notre méthode d'entretien, c'est-à-dire d'abord écouter. Écouter et encore écouter sans aucun préjugé. L'idée était de me dire, j'ai quelqu'un devant moi qui a un profil dont j'ai pas l'habitude, qui me parle de beaucoup de projets à la fois. Donc, surtout, je ne mets aucun biais. Je m'intéresse à la construction de la personne, la situation de la personne. Et je vais aller chercher dans ce déclaratif tant les dimensions comportementales que je comprends que surtout les leviers de motivation. Pour essayer de comprendre quelle peut être la hiérarchie de priorité dans les motivations. Après, en termes de méthodologie, on a échangé très librement sur aussi des conseils sur la manière d'activer des réseaux qui sont peut-être plus notre quotidien que celui d'Astrid à l'époque. Mais j'ai surtout cherché à raccourcir l'espace entre nous pour, avec bienveillance, créer une espèce d'intimité, de meilleure connaissance, pour être sûr de ne pas faire fausse route, en tout cas d'essayer.
Astrid, j'imagine qu'une sportive est entourée de coachs en tout genre, psychologiques, sportifs, etc. En quoi l'approche de Grégoire était peut-être un petit peu différente ? En quoi elle t'a porté vers ce que tu es aujourd'hui ?
Alors, on pense effectivement qu'un sportif est très entouré, pas tant que ça.
Ah, d'accord.
Ça veut dire qu'il faut aller chercher justement cet accompagnement. Tout le monde ne fait pas un accompagnement psychologique. Je l'ai fait, j'ai eu la chance d'être suivie par Myriam Salmi, qui est une personne extraordinaire et qui vous apprend aussi à aller chercher des ressources, à changer vos comportements. Et c'est, il y a l'impression qu'elle travaille votre cerveau. Et donc, quelque part, ça aussi, c'était une démarche personnelle de se dire, je pense que sur ces sujets-là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un qui me renvoie aussi ce que je pense. Et donc, voilà, donc on n'est pas forcément très bien entouré. Et moi, j'avais le sentiment que j'y arriverais pas seule et que c'était aussi une crise existentielle. Hein. Ouais. Et je ne l'ai pas minimisée. Et donc, voilà, c'est à nouveau, hein, quand on ne se sent pas forcément compétent, avoir cette, peut-être cette démarche de dire, là, je m'entoure, je vais chercher quelqu'un qui est expert dans le domaine. Et puis, on va se faire confiance, on va apprendre à se connaître aussi, parce que c'était aussi la démarche de l'amener à l'INSEP. J'avais besoin qu'ils comprennent que c'est...
D'où tu viens.
Exactement, et que ça compte, et qu'il y a une richesse quand on est sportif de haut niveau, que c'est toute une partie de sa vie, et qu'on s'apprête à faire un deuil qui n'est pas neutre.
J'ai envie qu'on parle aussi de, d'être une femme dans ce milieu sportif, d'être une femme dans l'entreprise. On a la chance de t'avoir à ce micro et tu connais bien les deux mondes. Est-ce que tu as eu le sentiment dans ton parcours que tu as été entravée, que tu as été empêchée, que tu as été peut-être jugée, traitée différemment en tant que femme?
Alors, je ne sais pas répondre à cette question.
Tu l'as pas vue?
Parce que je ne l'ai pas vue, en fait, très certainement. En fait, moi, je pars vraiment du principe que même si c'est difficile, de toute façon, je dois trouver des solutions et je ne pars pas du principe que c'est parce que je suis une femme. C'est-à-dire que de toute façon, je prends des projets difficiles. J'ai l'impression que je dois être un peu maso, mais c'est limite parce que c'est difficile que ça me plaît et que je me dis, OK, on va se retrousser les manches et on va essayer de faire en sorte que ça devienne possible. Donc peut-être que j'ai été confrontée à ça, mais je ne me suis pas attardée là-dessus, en fait. Parce que ce qui compte, c'est l'objectif, c'est de l'atteindre, c'est de réaliser ses aspirations. Et donc, whatever it takes, en fait, c'est je vais trouver un moyen d'y arriver malgré tout.
Marie, ça, c'est un conseil qu'on peut donner à toutes les candidates, à toutes les femmes qui nous écoutent, qui sont en entreprise, de peut-être pas trop se poser de questions, peut-être avancer et pas se focaliser sur les personnes qui voudraient nous entraver, les laisser sur le côté et puis vivre sa vie, quoi.
Alors, c'est un vrai conseil, en effet, d'oser d'être celle qu'on souhaite être dans le monde de l'entreprise, d'oser de se nourrir aussi sans trop se poser de questions. Je pense qu'aujourd'hui, la femme, en 2022, se pose peut-être beaucoup de questions. Je pense que le débat n'est pas là. On parle des compétences avant tout. Et à partir du moment où on se pose plus de questions, je pense que la notion de confiance en soi a été travaillée, a été libérée. C'est d'ailleurs la mission du réseau Adèle, qui est de libérer la parole des femmes qui ont des maturités plus ou moins différentes. Hein. On se rend compte dans le monde de l'entreprise que à partir de 30 ans, on peut perdre une femme sur deux dans leur vie de femme ou leur vie de maman. C'est aussi à nous, entreprise, de pouvoir accompagner, coacher au quotidien pour libérer cette parole.
Toi, en tant que femme, tu as ressenti une bienveillance particulière, des efforts particuliers qui ont été faits?
On a clairement une culture extrêmement bienveillante. J'ai pu échanger également avec d'autres femmes qui ont vécu dans des cultures d'entreprises très différentes et qui ont vécu des sujets qui étaient durs à vivre en tant que femme. Je pense qu'à un moment donné, Astrid en parlait tout à l'heure, c'est savoir dire non, c'est savoir se positionner en tant que femme, en tant qu'individu, de remettre aussi avec classe, s'il y a besoin de remettre aussi les choses dans la bonne place, et puis surtout d'impacter ensuite d'autres femmes.
Est-ce que quand on te dit que c'est impossible, du coup, ça te booste encore plus, du coup?
Moi, j'adore. J'adore quand on me dit que c'est impossible parce que c'est les personnes qui m'ont le plus aidée dans ma vie de femme, qui m'ont le plus aidée à me remettre en cause, à m'interroger sur pourquoi on pouvait avoir des traitements différents d'un homme. Et aujourd'hui, il n'y a même pas de débat à avoir. Enfin, aujourd'hui, la diversité, l'équité crée une vraie richesse.
Est-ce que cette maturité-là de foncer, de pas trop se poser de questions, tu l'observes dans les entretiens que tu peux réaliser, toi, Grégoire?
Alors, première observation, oui, il faut oser, parce qu'il y a des biais qui existent encore et sur lesquels il faut communiquer pour faire changer les choses. On note qu'il y a des différences de rémunération à poste, expérience, toutes choses égales par ailleurs, entre hommes et femmes, ce qui peut paraître complètement étonnant. Dès le premier job, à la sortie de l'école, il est prouvé que les prétentions salariales diffèrent selon qu'on parle d'un candidat ou d'une candidate, ce qui n'est pas possible.
Donc, on se pose encore beaucoup de questions.
Donc, là, on est bien dans le volontarisme, la prise de confiance et la prise d'initiative. Pour revenir à l'entretien, évidemment, une bonne manière de faire fi de ces critères qui n'ont pas lieu d'être, c'est de se concentrer sur, pour moi, deux éléments essentiels que sont la compétence, et particulièrement la compétence comportementale, et l'analyse fine des leviers de motivation en adéquation avec un attendu sur un projet et un poste. À aucun moment, les critères ne doivent être ni âgés, ni genrés, ni sexués, de manière évidente. Mmh.
Comment la mixité a pu t'apporter, toi, Astrid, dans tes activités autant sportives que non sportives ?
Ouais, y a une vraie complémentarité. Hein, entre... Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas des qualités qui sont spécifiquement réservées aux hommes et des qualités qui sont spécifiquement réservées aux femmes. En fait, un collectif naît fort, et c'était le cas en équipe de France d'escrime, où Fleuréum et Fleurédame, on s'entraînait ensemble. Un collectif n'est fort que parce qu'il est divers. Mmh. C'est cette diversité qui fait cette richesse de point de vue, de regard, et qui nous permet d'apporter des solutions nouvelles et d'avoir ce qu'on appelle cette intelligence collective. Donc, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui m'a nourri au sein de l'équipe de France, c'est ça qui me nourrit professionnellement. Et je ne considère pas que des choses sont plus réservées aux hommes ou aux femmes, ni même des comportements. Mmh. Et voilà, donc je pense que c'est ça qui est important à dire et à répéter. Et cette entraide aussi entre femmes, potentiellement, il faut la développer. Il y a beaucoup de réseaux d'hommes qui existent depuis des siècles. Et
la sororité entre femmes.
Exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, je retrouve dans les mots de Marie, hein, cette entraide. Je pense que c'est quelque chose, les femmes ont tout intérêt à le développer, ne serait-ce que pour pouvoir mieux se projeter. Ouais. Se dire, c'est possible, je peux prétendre à ceci. Parce qu'en fait, il y a quasiment un frein. Mmh. Et ces plafonds de verre qu'une femme peut se mettre, cette autocensure, on peut la casser si on parle et si on échange davantage entre nous.
Mmh. Marie, est-ce que tu sens que c'est une tendance, toi, dans tes collègues, dans les personnes que tu peux accompagner, et des personnes qui sont dans le réseau Adel, que de pouvoir libérer sa parole, de pouvoir s'entraider? Il y a aussi pas mal de lois, des choses qui sont faites, hein, pour faire avancer la cause, hein, mais est-ce que c'est dans les têtes, ça avance?
Complètement. Complètement. Déjà, pour moi, en effet, il y a le réseau de femmes qui libère la parole des femmes, mais il y a aussi, rappelons-le, le réseau Adel, c'est un réseau mixte, composé de femmes et d'hommes, extrêmement bien représenté au sein des différentes BU du groupe Adeco. On a surtout beaucoup d'hommes qui portent la parole des femmes, qui sont là aussi pour faire bouger les lignes. Et la notion de place de la femme dans les organisations n'existe uniquement si l'équilibre se fait également dans toutes les organisations, dans les rituels managériaux, etc.
Ouais. Mais la place des femmes dans l'entreprise, c'est pas forcément les femmes dans les métiers de direction. Donc, on est quand même dans quelque chose de bien différent. Hein. Il faut bien distinguer les deux et peut-être avoir des actions qui sont en faveur de la place des femmes globalement dans l'entreprise et des actions des femmes dans les comités de direction.
Tout à fait. Là, on est vraiment sur une notion de place à tous les niveaux de l'organisation.
Ouais. Je crois qu'il existe des choses pour promouvoir cette démarche, Grégoire.
Oui, parce qu'il y a un vrai chemin encore à parcourir. Et ce chemin ne se fera que sur ces notions de diversité, de complémentarité et d'équité. Mmh. Un exemple, effectivement, les consultants consacrent une journée entière, tous autant qu'ils sont sur toutes nos villes, à ne recevoir que des femmes en entretien pour les écouter, les conseiller sur l'optimisation de leur parcours vers l'intégration de comités de direction.
Mais
c'est une thématique qui est portée justement pour être dans le partage de retours d'expérience, de facilitation de partage de bonnes pratiques. C'est une première chose. Une deuxième chose, je suis content de le dire, il y a des réalités chiffrées qui reflètent que c'est un ADN chez nous porteur. On parlait de management de transition lors d'un précédent podcast. L'ensemble des managers de transition femmes en France représente, je crois, autour de 26-27% des managers de transition. On est d'ores et déjà à 38. Ça n'est certainement pas assez, mais on est en avance sur notre temps, à l'image de la constitution de notre comité de direction. On a ambition qu'il soit à 50-50. On n'y est pas encore, mais on est 7 points en avance sur la moyenne nationale puisqu'on a dépassé les 30%.
Allez, on espère que vous allez atteindre du coup la parité totale le plus rapidement possible, comme
c'est,
ça.
C'est l'ambition claire.
Astrid, j'ai envie de t'interroger sur où tu en es aujourd'hui. Voilà, tu as parcouru un certain chemin, accompagné notamment par Grégoire. Raconte-moi un peu ta carrière sportive. C'est fini avec l'arme à la main, mais elle n'est pas finie du tout en vrai.
Ouais, effectivement, j'ai pris la décision cette fois, c'est irrévocable d'arrêter ma carrière sportive. Hein, mon corps me le crie. Puis également, c'est une chance hein, d'arrêter sa carrière sur une médaille olympique. À vrai dire, j'ai beaucoup œuvré et j'ai à la fois une fatigue physique, mais aussi psychique et nerveuse parce que c'est quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de stress. Et puis j'ai l'envie de mettre cette énergie aussi aujourd'hui vers d'autres projets.
Et oui, c'est ça.
Projets personnels, évidemment, et puis mais également des projets professionnels au sein d'Ariane Group puisque je co-lide un projet sur le développement des leaderships du leadership au sein de l'entreprise, à tout niveau de l'entreprise et pour tous les collaborateurs. Et puis le mandat électif au comité olympique qui me permet finalement de rester connecté au monde du sport et notamment aux athlètes puisque L'enjeu, c'est de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent performer alors très vite à Pékin cet hiver.
On espère.
Et puis à Paris 2024, évidemment, chez nous, avec cet enjeu aussi de laisser un héritage fort et de faire en sorte que la France soit davantage une nation sportive et que le sport soit, devienne aussi culturel.
Nouvelle carrière, nouvelle responsabilité, nouvelle difficulté peut-être aussi.
Mais certainement, mais tant mieux, parce que si c'est difficile, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. En fait, ça me fait vraiment pas peur que ce soit difficile. C'est...
Puis il y a des choses agréables si aussi, j'imagine.
Facile,
hein.
Si c'était facile, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de moi. Il n'y a pas besoin d'y mettre autant d'énergie. C'est parce que c'est difficile qu'il faut faire bouger les lignes et qu'il faut contribuer à faire en sorte que les choses évoluent.
J'aimerais qu'on termine ce podcast en parlant de confiance en soi. C'est, je crois, un des maîtres mots. On l'a compris dans le parcours d'Astrid, la confiance, le fait d'avancer, de foncer, c'est peut-être une des clés. Comment on peut développer sa confiance en soi? Alors, il n'y a pas de recette miracle pour développer sa confiance en soi tout de suite, mais j'imagine qu'il y a quand même des petites choses qu'on peut faire, Astrid.
Mais en fait, déjà, je vais dire quelque chose. Je n'ai pas naturellement confiance en moi. Et ce n'est pas parce qu'on doute qu'on ne doit pas agir. C'est sain de douter, c'est sain de se poser des questions, mais ça ne doit pas vous entraver dans votre capacité à entreprendre. Donc oui, je doute, je me pose des questions, mais j'agis quand même. Et ça, je pense que c'est fondamental.
Marie ?
Très clairement, le doute, les échecs renforcent aussi la confiance en soi par des réalisations passées, par une remise en cause, qui appuie ensuite sur des convictions plus ou moins fortes, par aussi le retour de nos pairs, et surtout l'écoute, le retour qu'on peut avoir. Une confiance en soi, dans un parcours de femme, se travaille, s'analyse et se renforce. Ce n'est pas un acquis, on travaille une confiance en soi.
Grégoire ?
Je crois qu'on a deux femmes ce matin présentes qui traduisent que la nature aide quand même parce qu'il y a une capacité à douter, ce qui est un profond signe d'intelligence, mais il y a une dynamique, il y a une force, il y a une volonté supérieure à la moyenne. Donc la nature joue comme élément de départ et à la nature, j'y ajoute évidemment un élément d'acculturation. Le travail, et un travail, s'il peut être collectif, nourri d'échanges, permet d'aller encore plus loin.
Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés dans ce podcast qui était très inspirant. Je l'espère pour vous également, d'ailleurs, chers auditeurs, auditrices. Merci Grégoire Houquet, Managing Director de l'activité Management de Transition en France chez LHH Recruitment Solutions. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci également Marie Doshi d'avoir partagé ce plateau avec nous. Je rappelle que tu es Senior Manager chez LHH Recruitment Solutions.
Merci David.
Et merci Astrid de nous avoir fait part de ton parcours, de tes enseignements, de tes réflexions. C'était fort inspirant pour tout le monde, pour moi également. Merci beaucoup Astrid.
Merci David et merci à vous deux pour les échanges.
Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et pour ne rien rater de ces échanges passionnant, comme on vient de le vivre encore dans ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes de Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. À très bientôt.